إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مشايخ وسؤال الإخوة والأخوات مرحبا بكم جميعا Je vous souhaite à tous et à toutes donc la bienvenue en cette début de soirée. Et comme vous avez pu le constater, le thème de notre intervention tournera autour du verset choisi, qui est le verset 105 de la sourate At-Tawbah, la sourate le repentir, où le Seigneur Azza wa Jalla nous dit « وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ ورسوله والمؤمنون. Et dis-leur, يا محمد, agissez, اعملوا, فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. Car Allah Azza wa Jal va constater, va voir ce que vous faites, ainsi que son messager et les croyants. والله, mes chers frères et sœurs, ce verset mérite de nous une très grande méditation. Et c'est la preuve. Ceci est la preuve de la parole divine. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا Qu'ont-ils à ne pas méditer ce livre? Ou alors y a-t-il des cadenas sous leur cœur? Leurs cœurs sont-ils scellés par des cadenas? Et wallah, ce verset et bien d'autres doivent nous pousser. Ce verset et bien d'autres doivent nous pousser à méditer sur la parole d'Allah Azza wa Jal. Et Al-Amal Sha'ar Mu'min, l'action est la devise du croyant. Et c'est pour cela que si vous retournez à la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que les grands événements de l'islam se sont passés, à titre d'exemple bien sûr, se sont passés pendant le Ramadan. La bataille de Badr, Ma'arakatu Badr al-Kubra, cette bataille, cet événement décisif, fatidique pour l'avenir de l'islam et de la communauté de l'islam naissante, s'est déroulé durant le mois de Ramadan. Aussi, Fath Makka, la libération de la Mecque et son ouverture au message de l'islam, et également c'est fait pendant le mois de Ramadan. Alors pourquoi je cite le mois de Ramadan? Parce que nous, malheureusement, nous avons compris, et je le dis en passant, nous avons compris de ce mois comme étant un mois de repos, un mois de paresse, un mois de sommeil. Ces hommes et ces femmes, ces premiers croyants et ces premières croyantes, ont compris que Al-Amal, l'action, le fait d'agir, n'est pas lié à un temps. Leur action, leur agissement est intemporel. Parce qu'ils se sont rappelés que leur vie d'ici-bas, et que la nôtre aussi, est limitée par le temps. Et wallah, notre temps, mes chers frères et sœurs, notre vie d'ici-bas est limitée par le temps. Et nous ne sommes que des voyageurs. Nous ne sommes, wallah, que des voyageurs. Un poète disait Sabiluka fid dunya sabilu musafir wa la budda min zadin li kulli musafir. Sabiluka fid dunya sabilu musafir wa la budda min zadin li kulli musafir. Ton chemin dans ce bas monde est celui d'un voyageur. Et chaque voyageur a besoin de provisions pour continuer et terminer son chemin. Allah Azza wa Jalla, au Coran, dans la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, Allah Azza wa Jalla nous a rappelé que ce bas monde n'est pas notre lieu de résidence. Que nous ne sommes que de passage, comme on va le voir maintenant dans la parole prophétique. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que ce bas monde n'est qu'amusement et distraction. Mais que la demeure éternelle, elle n'est pas ici. Elle est dans l'au-delà. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الدَّارُ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ce bas monde, وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. Ce bas monde n'est que distraction et amusement. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Et la demeure de l'au-delà, c'est elle la demeure éternelle, si seulement ils savaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour à Abdullah ibn Omar, le compagnon Abdullah ibn Omar, il lui dit: Kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger qui n'a pas d'attache, qui n'a pas de patrie. Kun fi dunya ka annaka gharib aw aabir sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un simple passant. Tu ne fais que passer. Tu n'es pas là pour longtemps. C'est ainsi, mes chers frères et sœurs, c'est ainsi que les premiers musulmans, al-muslimoun al-awwaloun, c'est comme ça qu'ils ont compris. Telle était leur vision de ce bas monde. Nous maintenant, c'est le contraire. Na'am, nous croyons en l'au-delà. Lana imanun bil-akhirah. Mais malheureusement, nous construisons plus pour rester ici que pour penser à partir vers l'au-delà. Et subhanallah, un jour j'ai visité un cimetière, donc au Maroc, et j'ai commencé à méditer. Lorsque je voyais certaines tombes, je me dis, subhanallah, l'être humain, combien est-il attaché à ce bas monde. Al-Qabr, la tombe, ce n'est qu'une première étape. Tu quittes ce bas monde et tu te retrouves sous terre. Et qu'est-ce qu'on remarque? Plutôt, quelle était ma réflexion et ma méditation lorsque je voyais certaines tombes? Du marbre, bien construite. Et même, j'ai vu une tombe avec un sort de grillage et un petit jardin au milieu. Ajab. Regardez. Voilà notre vision à nous, les musulmans, sans généraliser. Voilà notre vision de ce bas monde. Nous sommes enterrés, mais nous pensons encore à ce bas monde et nous construisons encore, alors qu'ils sont morts. Et c'est ça, l'une des causes de notre déchéance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenu: Alladhi la yantiqa anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Celui qui ne part jamais par ses passions, il n'est que révélation inspirée. Il nous a prévenu, il nous a annoncé tout cela. Lorsqu'il nous a dit: Tatada'a alaykum al-umam كما تتداعى الأكلة على قصعتها. Les nations vont se réunir autour de vous, tout comme les mangeurs, ceux qui ont faim, se réunissent autour d'une assiette ou d'un plat. Les sahabes et les compagnons sont étonnés. Ils sont étonnés de la réflexion ou de la remarque prophétique. Alors ils lui disent: أمن قلة نحن يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله. Serons-nous peu nombreux à ce moment-là, يا رسول الله. Il leur dit là: بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. Non, vous serez nombreux, au contraire. Mais vous ressemblerez à l'écume du fleuve ou de l'océan. Vous n'aurez aucun poids. بما أصابكم الوهن. Et c'est à cause de cette faiblesse qui vous a frappé. Ils l'ont dit: وما الوهن يا رسول الله. C'est quoi cette faiblesse qui va nous toucher alors que nous serons nombreux? Écoutez sa réponse: حبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. Votre amour pour la dunya et votre répugnance pour la mort. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes ont compris que ce bas monde doit être une passerelle. Mahbar, Jisr, une passerelle pour aller vers l'au-delà. Nous continuons encore à construire en hauteur. Adak Maknach, il n'est pas encore assez convaincu. Il a une maison à 2 étages. Il faut encore en rajouter 3 ou 4, le plus haut possible. Ces hommes et ces femmes, wallahi, ils avaient une autre vision des choses. Une vision purement coranique et purement prophétique. Ils ont compris qu'ils devaient s'investir dans cette dunya, non pas pour y vivre éternellement, mais pour le préparer, pour préparer ce terrain, ce bas monde, afin de rejoindre leur Créateur subhanahu wa ta'ala. Ils ont compris que la grandeur, al-majd, la grandeur, c'est en travaillant, en agissant, pas en dormant et en se reposant. C'est ça qu'ils ont compris. Ils ont travaillé pour leur Ummah. Ils ont travaillé pour leur Islam. Et on va y venir après, lorsque je me poserai la question à moi-même, mais aussi à vous tous et toutes, une question qui est très dérangeante et très gênante. Khalid bin Walid, radiallahu anhu arda, cet homme qui, lorsqu'il est mort, son corps est criblé de coups. Son corps est criblé de coups de sabre et de flèches. Cet homme qu'on a surnommé à l'époque Saifullah al-Masloul, le sabre d'Allah brandi. Lorsqu'il vint vers la Perse avec ses troupes et son armée, il leur dit Ji'tukum biqawm hum ahrasu an-nas 'ala al-maut min hirsikum 'ala al-hayat. Je suis venu avec des gens qui sont plus passionnés pour mourir que vous qui êtes passionnés pour vivre. Les paramètres sont différents. Et là, malgré tout, nous devons dire malgré tout, alhamdulillah, al-ummah, ummatul islam, la communauté de l'islam, il reste toujours dans la communauté de l'islam. Al-khayr baqin ila an taqum sa'a. Le bien, les gens vertueux, les gens de piété, même si on ne les connaît pas, ils ne se montrent pas. Ils sont encore là où il est, alhamdulillah. Il y a encore des gens qui se lèvent la nuit et qui prient et qui pleurent pour leurs péchés. Il y a encore des gens qui donnent des aumônes, sadaqat, sans que personne le sache. Il y a encore des gens qui travaillent pour ce din, qui travaillent pour leur ummah, sans chercher les titres, ni non plus la notoriété ou la réputation. Il y en a encore, alhamdoulilah. Et ils ne cherchent pas pour autant la célébrité, ils ne cherchent pas pour autant à se montrer devant tout le monde. Et en passant, j'aime citer cet exemple de ce tabi'i qui était Zain al-Abidin rahimahullah. Lorsqu'il mourut, lorsqu'on vint pour le laver, ceux qui se mirent à le laver ont constaté qu'il avait une tache noire sur son dos. Ajab. D'où vient cette tache noire? Alors c'est là que l'un de ses proches a dit: vous posez la question quant à cette tache noire, je vais vous livrer le secret. Et en fait, ce proche de Zain al-Abidin a constaté ce que personne n'a remarqué, ce que même Zain al-Abidin lui-même n'a pas remarqué. Il dit: ça, c'est l'effet de ce qu'il portait sur son dos la nuit, ces sacs de blé qu'il portait sur son dos et qui circulaient dans les rues de Médine à distribuer aux pauvres, sans que personne ne le remarque ou ne le constate. Il n'est pas parti le crier sur les toits en leur disant « Je donne, je m'occupe des pauvres. » Non. Il le faisait pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. « Mahabbatan Allah Azza wa Jal. » Mais aussi il veillait à ce que son action reste entre lui et son Seigneur. Bref, « وَقُلْ اِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. » Et dis-leur, agissez. Et dis-leur, et Mohammed, agissez, car Allah va voir ce que vous faites, ainsi que son messager. Vous savez, mes chers frères et sœurs, à partir du moment où nous avons établi que notre parcours dans ce bas monde est un parcours temporaire, que notre présence ici et d'une présence précaire. Eh bien, vous devez savoir que ces hommes et ces femmes auxquels j'ai fait allusion, ces hommes compagnons et ces femmes compagnons, ont compris qu'ils devaient laisser des traces. Ils devaient laisser des traces. Et avant eux, les prophètes, les anbiya, devaient laisser des traces dans l'histoire, le tarikh. Afin que ceux qui viennent plus tard, ceux qui viendront plus tard, les générations qui se succéderont, qui viendront plus tard, se rappelleront d'eux. Mais que vont-ils tirer d'eux ? Ad-du'a wa thana al-hasan. L'invocation. Ad-du'a, l'invocation. Wa thana al-hasan. Et l'éloge vertueuse. Voilà ce que ces gens vont tirer. Et souvent, dans nos conférences, dans nos cours, dans les sermons du vendredi, on nous parle de prophète Anbiya. On nous parle aussi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier. On nous parle des compagnons as-sahaba, on nous parle des tabi'in, on nous parle de savants, on nous parle de pieux, on nous parle d'ascètes, zuhad, on nous parle de ubad, adorateurs. Vous êtes-vous posé la question, comment ces gens se sont fait connaître malgré eux? Vous savez pourquoi, mes chers frères et sœurs? Parce qu'ils ont laissé des traces indélébiles, des traces ineffaçables dans notre histoire. At-tarikh yusajjil, l'histoire inscrit, l'histoire est une mémoire. Mais notre problème à nous, c'est que nous oublions très vite notre histoire. Notre problème à nous, c'est que lorsque nous lisons, nous ne comprenons pas. Ou d'abord, nous ne lisons pas pour commencer. Et si nous lisons, nous ne comprenons pas. Et si nous comprenons, nous n'appliquons pas. Alors il y a un jour, en Palestine occupée, il y a un officier israélien de haut grade qui a divulgué une information concernant certains plans qu'il prévoyait. Et c'est là qu'il a eu des reproches d'un de ses supérieurs. Il lui a dit « Etma enno, rassurez-vous ». Donc celui qui a diffusé les infos, qui a divulgué le secret, il a dit « Etma enno, regardez comment on est vu ». Comment les Arabes et musulmans sont vus. Itma'innu fa inna al-arab la yaqra'un. Rassurez-vous, les Arabes ne lisent pas. Wa idha qara'u la yafhamun. Et s'ils lisent, ils ne comprennent pas. Wa idha fahimu la ya'malun. Et s'ils comprennent, ils n'agissent pas. Et c'est pas difficile. Regardez maintenant combien de réunions sont organisées. Combien de fois les musulmans, les droits des musulmans sont bafoués en Palestine et ailleurs. Des congrès, réunions de la Ligue des États arabes, je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il n'y a absolument rien. Parce que nous sommes très forts dans les réunions. Se réunir, parler, et puis après chacun prend son chemin et c'est terminé. Mais ces hommes et ces femmes qui sont nos références, S'ils sont devenus pour nous des références à travers l'histoire, et c'est jusqu'à la fin des temps, c'est parce qu'ils ont compris. Fahimu shay'an muhimman. Ils ont compris que al-amal, l'action, c'est par ça qu'ils vont entrer au paradis. As-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarrabun. Ces gens qui se concurrencent, ceux-là seront les rapprochés d'Allah. Le savant et imam Ibn Sa'di nous a fait un très beau commentaire de ce verset. As-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarrabun. Ceux qui prennent les devants pour agir, pas pour parler et dormir. Ceux qui prennent les devants pour agir, ulaika al-muqarrabun, ceux-là seront les rapprochés d'Allah. Qu'est-ce que dit ce savant et imam rahimahullah wa rahmatullah jami' al-muslimin wa ulama al-muslimin? Qu'est-ce qu'il dit? As-sabiqoun ila al-khairat. Ceux qui prennent les devants pour aller vers les vertus, vers la piété, vers les actes de bienfaisance, de vertu, ceux-là seront les premiers aussi à entrer au paradis. Et c'est dans cela qu'il faut se concurrencer. Lisez un peu le verset. Lisez le verset dans Surat al-Mutaffifin. La Surat al-Mutaffifin,
où Allah Azza wa Jalla nous parle à un moment donné des gens du paradis et de certains privilèges qu'ils vont avoir.
Et après avoir expliqué, Allah Subhanahu wa Ta'ala nous dit wa fi dhalika falyatanafasul mutanafisun.
Et c'est à cela que doivent se concurrencer les concurrents. Non pas pour dunya, non pas pour des affaires personnelles, mais pour ton avenir, ton au-delà.
Car le paradis a des degrés. Al-jannatu laha darajat.
Le paradis a des degrés. Et il ne faut jamais se contenter du degré le plus bas.
Il faut souhaiter la clémence d'Allah Azza wa Jalla et sa grâce, al-fadl.
Car nul n'entrera au paradis par ses actions, comme l'a dit le prophète sallam. لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله.
Toi non plus, au messager d'Allah, tu nous dis que personne n'entrera au paradis par ses actions. Toi non plus.
Il dit ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله.
Sauf si Allah m'inclut, moi aussi je n'entrerai pas au paradis par mes actions, sauf si Allah m'inclut par sa clémence et sa grâce.
Rappelons-nous ça tout le temps, mes chers frères et sœurs.
Ne soyons pas imbus de nos actions.
Rappelons-nous tout le temps qu'il n'y a d'entrée au paradis que par la clémence d'Allah et sa grâce. Mais les actions vont être fatidiques dans la balance.
Alors c'est pour cela que l'histoire, at-tarikh, ne retient que les gens qui ont fait quelque chose.
Mais attention, soit en bien ou en mal.
In khayran fa khayr ou in sharran fa shar.
Soit en bien ou soit en mal.
L'histoire de Tariq nous a retenu Pharaon, nous a retenu Abu Lahab, nous a retenu Abu Jahl et bien d'autres.
Mais comment les citons-nous?
Les citons-nous avec éloge et reconnaissance, ou bien les citons-nous juste à titre de rappel pour ce qu'Allah leur a fait subir après?
Alors qu'à côté de cela, les gens de piété, les gens qui ont travaillé pour leur dîn, pour leur islam, qui ont travaillé pour leur communauté, leur umma, ils font légion. Tout comme les gens du mal font aussi légion.
C'est ça notre croyance.
هذه عقيدتنا.
Ceci, mes chers frères et sœurs, est notre croyance et notre vision de ce bas monde.
Je ne suis pas là juste pour prier, jeûner, donner nos mondes. Je suis là pour plus que ça.
Je suis là parce que je porte un message.
Ana huna li'annani ahmilu ham, li'annani ahmilu risala.
Je suis là parce que je porte un souci dans ma conscience.
Je suis là parce que je suis porteur d'un message.
Alors ce message, l'ai-je acquitté?
L'ai-je transmis?
Qu'ai-je fait pour ma religion?
Qu'ai-je fait pour ma umma, ma communauté?
Et on va y revenir, inshallah.
Donc la croyance,
l'aqida, la croyance n'est pas seulement étudier par cœur des textes, bien que c'est demandé, ce n'est pas que cela.
Parce que si maintenant l'aqida, la croyance, est notre credo, c'est d'étudier par cœur certains textes et certaines questions, et je rappelle que c'est très important,
si ce n'était que cela, la croyance, eh bien je crois que nos ancêtres, qui nous ont laissé une histoire pleine de fierté,
eh bien, ils se seraient contentés de rester dans leur mosquée, d'adorer Allah Azza wa Jalla paisiblement, de lire le livre d'Allah, de faire quelques aumônes par-ci et par-là, de jeûner wa kafa.
Non, Allah. Leur histoire à eux prouve le contraire.
Lisez la biographie. Lisez la biographie, déjà du prophète, pour commencer, sallallahu alayhi wa sallam. Et avant lui, celle des prophètes, Nuh alayhi salam, Ibrahim, Moussa alayhi salam, Isa et bien d'autres.
Lisez le Coran, lisez les récits, regardez ce que ces hommes ont fait.
Lisez la biographie du prophète sallallahu alayhi salam, celle des compagnons, hommes et femmes, et regardez si vous allez trouver une trace ou un indice sur lequel l'un d'entre eux a compris l'islam, l'islam comme étant juste une adoration. Je vais à la mosquée, je prie, j'apprends ce que je peux un peu de mon dîn, et puis je m'arrête là.
Cherchez un peu, regardez si le compagnon
le plus saint, entre guillemets, le plus humble parmi eux, ils sont tous humbles, mais le plus humble et le plus ordinaire parmi eux, vous verrez qu'il a fait des choses grandioses pour sa foi, pour son dîme. Lisez et regardez et vous en aurez le cœur net. Et c'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda un jour à Koufa, il est venu vers des gens, il les a trouvés en train de prier dans la mosquée. Ils étaient retirés. En fait, ils se sont coupés de la société et ils se sont mis à se consacrer uniquement à l'adoration. Et c'est là qu'il s'écria en leur disant مَنْ يُقَاتِلُ الْعَدُوْ لَوْ يَعْتَزَلْتُمْ. Qui combattra l'ennemi si vous vous retirez? Si chacun d'entre nous se retire dans son petit vécu personnel, son train-train quotidien, sa routine, son métro, boulot, dodo, si chacun d'entre nous faisait cela, que se passerait-il? Il est triste de voir que nos jeunes, que nous, en tant que musulmans, musulmanes, nous n'avons pas de projet, nous n'avons pas d'ambition. Regardez les non-musulmans. Wallahi, certains, je ne vais pas dire tous, mais beaucoup d'entre eux sont des gens passionnés. J'ai connu l'un d'entre eux, donc un non-musulman, qui m'a dit un jour, il m'a dit, vous savez, je suis un passionné des papillons. Là, les papillons, qu'est-ce qu'on fait avec les papillons? On les attrape, hein, et puis on les jette. Hada, qu'est-ce qu'il fait? Il voyage dans des contrées lointaines pour étudier les papillons, les types de papillons qui existent. Alors, lui, sa formation, c'est un chimiste. Rien à voir avec ça. Bref, il cherche sur Internet, il bouquine, il étudie, il s'instruit. Il est le passion. Il dit, moi, j'aime beaucoup les papillons. Et j'aime ce monde-là. Un autre qui était cheminot de fer. Vous savez, c'est quoi un cheminot de fer? Donc, il travaillait sur les chemins de fer. Dans les années 30, que faisait-il Hadak, celui-ci? Il profitait de ses voyages dans le train qu'il prenait, vu qu'il accompagnait souvent les trains, et il avait une passion pour les manuscrits orientaux. Les manuscrits des sciences musulmanes. Il avait une passion pour ça. Et il prenait note. Il avait un carnet. Si un jour le train l'emmène par exemple à Leiden, Leiden c'est en... lui c'est un Allemand. Leiden c'est en Hollande. Il y a pas mal de manuscrits islamiques là-bas. S'il arrive là-bas, il a son petit calepin, son petit bouquin, Kounaj, et commence à prendre note de tel manuscrit, de ceci, de cela. Si maintenant son train le jette je ne sais où, de nouveau, là où il se trouve, eh bien directement il va à la recherche. Il va à la recherche de manuscrits orientaux et il prend note. Il marque les références, le nombre de pages, quel type d'écriture. Bref, il se renseigne au maximum. Et ce cheminot, ce gardien des chemins de fer, vous savez ce qu'il a fait à la fin? Il a écrit un livre. Il a écrit un livre qui maintenant sert de référence chez les... donc les spécialistes des sciences islamiques. Eh bien ce livre, son livre sert de référence, on s'y réfère pour connaître tel et tel manuscrit. Regardez, alors nous, mes chers frères et sœurs, avons-nous cette passion? Avons-nous ce ham de travailler donc pour sa umma, pour son dîme? Na'an, tout le monde, chacun d'entre nous a rendu service à son prochain, à son voisin, à sa famille, a fait du fisabilillah, walhamdulillah, c'est parfait. Mais nous voulons plus que ça. Il est étonnant, mes chers frères et sœurs, de constater que lorsque l'un d'entre nous veut postuler pour un travail, un emploi, il présente son CV, son curriculum vitae, c'est la datia. Il le présente, si certains d'entre nous ont fait des travaux, ont fait des études, ont fait plusieurs professions, alors ils garnissent soigneusement ce CV. Pourquoi? Pour que ce CV soit le plus convaincant possible auprès de ce patron, dans le but d'obtenir son agrément et sa satisfaction, et après ça d'être engagé. Mes chers frères et sœurs, posez-vous la question. Avons-nous rempli notre CV pour l'akhirah? avons-nous rempli notre CV, notre curriculum vitae, l'avons-nous rempli pour l'au-delà? L'avons-nous rempli pour que ce CV soit soumis à notre Créateur subhanahu wa ta'ala, afin qu'après cela, il nous permette d'entrer au paradis, bi amnin wa salam? Avons-nous fait cela? Avons-nous cherché à avoir un palmarès d'actions nobles, vertueuses, pour ton dîn et pour ta umma? La question mérite d'être posée, et surtout elle mérite une réponse. Alors il y a une question dérangeante que je vais me poser, et je vais vous la poser aussi. Maintenant, la plupart d'entre nous ont 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être. Un peu plus, un peu moins. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'as-tu fait pour ta religion? Qu'as-tu fait pour ta umma? Tu as maintenant 20 ans, 30, 40, plus, moins. Pose-toi la question, tout ce vécu, qu'as-tu fait pour ta umma? Qu'as-tu fait pour ton dîn? Et je rappelle, peut-être certains répondront en disant, oui, j'ai fait quelque chose. Alhamdulillah, j'ai étudié, c'est parfait. Tu as étudié, tu as appris, Alhamdulillah, c'est ce qu'on veut. J'ai donné un coup de main à un frère déménagé, je l'ai aidé. Quelqu'un était malade à l'hôpital, j'ai été le voir, j'ai donné un coup de main par-ci par-là, j'ai fait du fils abilillah, Alhamdulillah. Ce qu'il y a, c'est que ces actions-là, leur effet est assez limité. Parce qu'elles concernent une, deux, trois, quatre personnes. Ce que nous voulons, mes chers frères et sœurs, ce sont des actions que tu fais, mais qui touchent pas 10 personnes, 100 et peut-être des milliers de personnes. C'est ça que nous on veut. Subhanallah, beaucoup d'entre nous cherchent à fructifier leur vie au maximum. Alors on a notre compte bancaire Fortis, ou bien la CGR, ou la ING maintenant, c'est la ING. La ING, je sais que notre compte bancaire, on est soucieux de bien le remplir. De bien remplir notre compte bancaire au maximum. Ça, c'est notre souci premier. Lakin, nous sommes-nous soucieux de remplir notre CV? Nous sommes-nous soucieux de faire fructifier nos actions? De faire en sorte que ce que tu vas faire comme geste, il va se perpétuer. 10, 100, 1000, des milliers vont en profiter. Mais malheureusement, les gens du mal, ahlul shar, les gens de la perversité, ahlul fasad, travaillent plus que nous. Ils répandent leur mal, ils répandent leur batil, leur faux, ils répandent leur turpitude et leur perversité, et vont dans ce sens, plus que nous. Et Omar al-Khattab avait raison. Omar al-Khattab avait raison de se plaindre, radiallahu anhu, en disant, نعوذ بالله من عز المؤمن وجلد الفاجر. Recherchons refuge auprès d'Allah. Omar disait, recherchons refuge auprès d'Allah. Recherchons refuge auprès d'Allah contre la faiblesse du croyant et la ténacité du pervers. Mais vous savez, les gens, face à ce type de question, à savoir qu'avons-nous fait pour notre dîn, qu'avons-nous fait pour notre communauté, notre Ummah? Qu'est-ce qu'on a construit pour le bien de nos frères et sœurs, pour l'islam tout simplement? Vous savez, les gens se divisent en plusieurs catégories par rapport à ça. Il y a une catégorie de gens, Wallahi, qui n'ont aucun souci, si ce n'est bien manger, assoupir leurs désirs et aller se reposer. C'est tout. Alors, ces gens-là ne sont pas concernés par ce sujet. Et ces gens-là, wallahi, ils sont peut-être musulmans, alhamdulillah, on n'a pas les dénigrés, mais l'histoire ne les retiendra jamais. Et ce n'est pas sur eux que se construisent, ou plutôt que se construit la grandeur des nations et des civilisations. La deuxième catégorie, ce sont ceux et celles qui n'arrêtent pas de se plaindre. Ils n'arrêtent pas de se plaindre, il y a trop de problèmes, les musulmans sont faibles, on a des problèmes, on a ceci, on a cela. Bref, ils passent leur temps à se plaindre. Ça ne va pas, on est faible, on est persécuté, on est victime, etc. Mais il ne fait rien pour changer. Ah oui, tout, mais il est assis, c'est comme ce qu'on appelle comme un enregistreur. Appuie sur play Et puis bismillah. Et il est parti. Sans arrêt. Et il est parti sans arrêt. Et on a des problèmes, on est ceci, les médias parlent sur nous, on nous fait, la Palestine, ceci, cela, cadavre, voici. Alors celui qui veut sombrer dans la dépression, eh bien qu'il les fréquente. Juste appuie sur play, et puis écoute-le. Et à Tshba'a Tounes, tu vas être bien assoupi, tu auras bien mangé, bien bu. Il va te parler pendant des heures, on a ceci, on a cela, mais la question qui vient après, et toi, qu'as-tu fait? C'est facile de parler d'un constat qui est triste et accablant, mais toi, qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait ne plus qu'un petit effort pour ta communauté, pour ton din, au lieu de pleurer et pleurnicher? Parce que pleurnicher, tout le monde sait faire ça. La troisième catégorie de gens par rapport à la question posée, qu'avons-nous fait pour notre din, notre communauté et notre umma? Ce sont ceux qui ont des diplômes, plutôt un grand diplôme. Et ce diplôme, vous ne le trouvez ni à l'ULB, ni à l'UCL, ni dans n'importe quelle université. C'est un diplôme unique en son genre. C'est le diplôme de la critique. C'est le diplôme de la critique. Il tire sur tout ce qui bouge. Donc il suffit que quelqu'un commence un projet, machin, il a ouvert un commerce, alhamdoulilah, il nous a fait une pizzeria, c'est dit halal, bismillah. L'autre, il a ouvert une librairie, alhamdoulilah. L'autre, il a ouvert je ne sais quoi, pour le bien de la communauté, alhamdoulilah. Lui, non, lui, tout ce qu'il sait faire, c'est critiquer. C'est tout. Donc c'est en fait c'est la face B de la cassette. Face A, c'est celui qui pleurniche, et face B, c'est la critique. Ah non, ceux-là, je ne sais pas quoi. Ceux-là, ils ont dans leur aqidah un problème. Ceux-là, il y a ceci. Ceux-là, il y a cela. Bref, masha'Allah, il est au courant de tout. Et lorsqu'on lui pose la question, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour ta umma? Au lieu de critiquer, au lieu de passer ton temps à critiquer et dénigrer tes frères et sœurs, toi, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as apporté? Pour toi, tout est mauvais. Ce n'est que de l'égarement partout. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait, toi? S'il y a de l'égarement, comment peux-tu te taire? Pourquoi n'agis-tu pas de ton côté afin de rétablir la situation, de redresser la situation? Subhanallah, tu vois quelqu'un couler, se noyer, et tu le laisses couler dans l'eau en disant qu'est-ce qu'il faisait dans l'eau, celui-là, pour commencer? Que faisait-il dans l'eau? D'accord, c'est une autre question. S'ouvre le sort de l'eau pour commencer, après poser la question, qu'est-ce qui t'a poussé à te jeter d'au-dessus du pont ou du canal? Eh bien, c'est un peu la même situation. Donc, des gens, mashallah, qui sont des professionnels, vous ne trouverez pas mieux qu'eux. Des professionnels dans la critique. Wallahi, ils tirent sur tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Et bien sûr, malheureusement, je dirais bien malheureusement, ce sujet ne les concerne pas non plus. Donc pour l'instant, on a la première catégorie, ce sont ceux qui, entre guillemets, ce n'est pas mon langage, se contrefichent de tout. Pour eux, tout va bien. Tant que tu ne touches pas son chômage, son travail ou les allocations familiales de ses enfants, c'est le plus important. Le baqi, alhamdoulilah, on vit bien. Hadak, malheureusement, le sujet ne concerne pas. Deuxième, c'est celui qui passe son temps à pleurer, pleurnicher. Maintenant, tu as bien pleuré, tu as vidé tous tes mouchoirs, mais c'est le mettre au travail. Réfléchis comment agir. Et le troisième, celui qui passe son temps à critiquer, à tirer sur tout ce qui bouge. Hadak aussi, tout ce qu'on a à faire avec lui, c'est adopter l'attitude du prophète sallam envers certains ignorants. Wa a'rid an jahilin, détourne-toi des ignorants. Ne fais pas attention. Wallahi, mes chers frères et sœurs, si vous entamez un projet et vous commencez à écouter les gens, vous n'allez plus rien faire. Et je voudrais, à titre d'anecdote, vous citer l'histoire de très connue chez les Maghrébins, qui est l'histoire de Djouha. Djouha avec son fils. Donc Djouha marchait avec son fils, ils avaient un âne, un mulet. Alors à un moment donné, ils ont dit, bah, tiens, on va monter tous les deux sur le mulet. Alors ils sont montés tous les deux sur le mulet, ils ont commencé à avancer, ils sont passés près des gens, les gens ont dit, regarde, quelle injustice. Pauvre mulet, ils l'ont accablé. Ils sont descendus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à marcher tous les deux, et le mulet, donc, il avance près d'eux. Alors qu'ils ont fait une distance, ils ont croisé des gens. Et de nouveau, les gens, ah, Oudubillam, c'est quoi ça? À quoi il sert le mulet alors? Là, quand on va au Maroc, par exemple, quand on va au Maroc, est-ce qu'on on met le porte-bagages? Certains, on dirait qu'ils ont déplacé une maison, tellement que c'est haut. Et celui qui n'a pas de porte-bagages, il est mal vu. Eh bien, c'est pareil ici. Donc, il y a le mulet, il n'a rien sur lui, et les gens disent, mais c'est quoi ça, c'est quoi ça? Au moins qu'il utilise, qu'il mette de la marchandise sur lui, etc. Ils ont fait une petite distance, alors il dit à son fils, Juha, il dit à son fils, allez, monte sur le mulet, tout. Et il monte sur le mulet, ils font une distance, ils rencontrent des gens. Quel mal élevé cet enfant. Son père marche, et lui, il est sur le. Et lui, il est sur le mulet. Descend, zèle. Il descend. C'est le père qui monte. Il va encore plus loin, il croise encore des gens. Ah, Oudubillah, mais c'est quoi ça? L'enfant mesquin, déroué, gentil, faible. Et le père, on dirait un buffle. Donc, la conclusion, c'est que, vous savez, vous pouvez entamer autant de projets que vous voulez, et ça, on va venir après, vous serez toujours critiqué. Mais, Wallah, les critiques des gens ne vous intéressent pas. Un poète disait, laisse les chiens aboyer et que la caravane continue son chemin. Wallah, si on veut faire attention aux critiques des gens, eh bien on ne va plus s'en sortir. Et ça, on va voir maintenant, on va arriver après, on parlera des conditions pour faire un travail constructif. Et quel type de critique est acceptable? Parce que bon, la critique n'est pas toujours mauvaise. Il y a des critiques constructives. Il y a des critiques quand tu la reçois, alhamdoulilah, c'est un khair, c'est un bien, tu peux t'améliorer. Donc tu ne dois pas être pour autant allergique aux critiques. Et ça, on va y venir, Inch'Allah. Donc, je rappelle ceux-là, ceux qui passent leur temps à critiquer, ceux-là, tout ce qu'on a à faire, c'est « wa'ard al-jahilin », détourne-toi des ignorants. Et la quatrième catégorie, c'est la meilleure, ce sont ceux qui sont pleins d'ambition et qui veulent laisser des traces. Wallahi, ils veulent laisser des traces indélébiles dans leur page, pour que Yom al-Qiyamah, ils aient le front ou la tête bien haute, de par la grâce d'Allah et sa clémence, fiers d'avoir travaillé pour leur religion. Eh bien, c'est à ces gens-là, à ces frères et sœurs-là, que nous adressons à travers ce sujet. Ceux qui se préoccupent du sort de leurs frères et sœurs, ceux dont l'intérêt de leur foi, de leur communauté, passe avant leurs propres intérêts. Ce sont de ces gens-là, de ces frères et sœurs-là, qui veulent renouveler As-Sira, le chemin de gens comme Abu Bakr, Omar, Uthman, comme le prophète avant tout, comme Omar ibn Abdul Aziz et comme bien d'autres salihines et pieux de cette Ummah. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse, à ceux qui travaillent pour leur communauté. Mais cependant, il faut qu'on fasse un petit détour pour comprendre bien ce sujet. Il faut qu'on fasse un petit détour pour que vous compreniez que lorsque vous agissez, ce n'est pas pour rien. Et que Allah Azza wa Jal, tout ce que vous faites, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous faites, vous le retient. Parcourez la sourate As-Saffat, la sourate les rangées. As-Saffat, parcourez cette sourate. Allah Azza wa Jal nous a parlé de plusieurs prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala a passé en revue plusieurs prophètes. Et à chaque fois, il concluait le vécu et la vie de ces prophètes par la phrase suivante, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Et on a laissé un rappel le concernant pour ceux qui viendront après. Regardez quelle belle phrase. C'est une phrase très simple. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Et nous avons laissé un rappel pour ceux, l'akhirin, ce sont les autres, ceux qui viendront plus tard. Et il en est de même pour tous les hommes qui ont travaillé pour leur foi, pour leur ummah. Tout cela, wallahi, ils ne regretteront jamais. Ils ne regretteront jamais, bi'idnillah, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils savent, inshallah, que ce qu'ils ont fait, c'était pour le bien de leur communauté, de leur islam. Et il n'y a que ces gens qui restent dans le tamis. Il n'y a que le nom de ces gens qui restent dans le tamis. Bien sûr, vous allez me dire, oh, mais c'est pas le but. Vous allez peut-être me dire, mais vous vous contredisez, vous dites au début que certaines personnes évitaient de se faire connaître, et là maintenant vous dites qu'il faut se faire connaître. Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on veut dire ici, mes chers frères et sœurs, c'est que même si vous faites tout l'effort possible pour ne pas vous faire connaître, il est possible que vous quittez l'histoire par la petite porte, mais pas chez Allah Azza wa Jal. « Il lam yadkurkum al-nas, fa sayadkurkum Allah Azza wa Jal. » Si les gens ne parlent pas de vous, Allah parlera de vous. Et Allah, j'aime à citer cet exemple de ce compagnon, Ubay ibn Ka'b. Ce compagnon Ubay ibn Ka'b, un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir et lui a dit, « Ya Ubay, Allah m'a ordonné, écoutez bien, Allah m'a ordonné de lire auprès de tous ces versets. » Et c'est le verset de la surat al-Bayyina, la surat l'évidence. Vous avez compris ce que je viens de dire là maintenant? Allah m'ordonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ubay ibn Ka'b, Allah m'a ordonné de lire auprès de toi, toi. Pas auprès des croyants, auprès de toi, ta personne, auprès de toi ces versets. Et c'est là qu'Ubay, stupéfait, dit Asammanillah, Allah a-t-il cité mon prénom? Donc il s'interpelle en disant, mais est-ce que Allah m'a cité Asammanillah? Le prophète lui fait Na'am. Et il s'est mis à pleurer. Ubay ibn Ka'b s'est mis à pleurer d'émotion en sachant que Allah Azza wa Jalla a cité son prénom et a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire les versets de surat al-Bayyina, la surat l'évidence, auprès de Ubay ibn Ka'b. Sois rassuré, chers frères, chers sœurs. Si les hommes ne te citent pas, parce que tu n'es pas connu, Allah lui te citera bi-idhnillah. Rappelle-toi cela. Et le but, si nous sommes cités après notre mort, tout comme les grands de cette Ummah ont été cités, qui savait que Zainul Abidin, ce savant que je vous ai cité au début, qui savait comme quoi il distribuait donc du blé à des pauvres la nuit dans les rues de Médine? Si ce n'était pas l'un de ses proches qui l'a découvert à son insu. Et c'est comme ça, entre autres par ces actes-là, ou par cet acte-là, qu'il est entré dans l'histoire. Alors, pourquoi serons-nous cités un jour? Premièrement, si nous sommes cités de notre vivant, nous gagnons une chose, l'invocation. On fait des invocations pour nous. On parle d'un tel, il s'appelle Jamal. On dit Jamal, ce frère, il est encore vivant. Ce frère, il a fait ceci pour sa communauté. Il a fait cela pour sa Ummah. Il a fait ceci pour son islam. Et on parle en bien de sa personne. Et on fait des du'as, Allah hafdo, qu'Allah le protège, qu'Allah le comble de bien, de tout ce qu'il peut mériter. Voilà ce qu'on gagne. Aussi, tu occuperas une place noble. Et tu l'occupes déjà auprès de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Innahum kanu yusari'una fil khayrat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ces croyants ahlus salah, ils se concurrençaient dans les vertus, dans la piété. Ils se concurrençaient pour voir qui sera le meilleur que l'autre. Et ils invoquent Allah avec quiétude, avec peur et espérance. Et ils invoquent, ils agissent, mais en même temps ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils l'invoquent avec espérance et avec peur, en souhaitant qu'Allah accepte leurs actions et leur pardonne leurs péchés. Voilà notre devise. Quand tu fais quelque chose, chers frères, chers sœurs, tu le fais pour le bien de tes frères et tes sœurs, pour le bien de ta communauté, de ton islam, invoque Allah comme invoquer ces gens, disant, en demandant à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve de son châtiment et qu'il t'accorde sa clémence et sa grâce et qu'il accepte ce que tu fais. C'est ça le plus important. Et quand tu meurs, et bien après cela, natarahamu alik, on fera des invocations de clémence pour toi. Mais plus que ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. Écoutez bien, faites attention à ce hadith. Donc je vous appelle à méditer auprès de ce hadith que je vais vous rappeler maintenant. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. Celui qui ferait un chemin de piété, de vertu, tu enseignes le Coran à quelqu'un. Demain, celui-là, il va enseigner à un autre. L'autre, à un autre. Et ainsi de suite. Eh bien, tu auras la récompense de ces gens-là, sans que le récompense ne diminue ni l'atteigne non plus. Et le contraire. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا la yanqus ila yawm al-qiyamah la yanqus min awzarihim shay. Et celui qui ferait un mauvais chemin, tu appelles à l'innovation une bid'a, tu appelles une turpitude, tu appelles un péché, eh bien sache que tous ceux et ceux qui le feront, ils ont des péchés certes, tu auras ton péché à toi et tu auras un peu de leur péché également, sans que ton péché ne diminue et sans que le leur ne diminue. Alors chers frères, chères sœurs, choisis dès maintenant ton camp. Aturidu an takuna ma al-akhyar والأبرار أم مع الأشرار والأشقياء. Veux-tu faire partie des vertueux, de ceux qui ont laissé des traces indélébiles dans leur histoire, dans leur CV et dans leur umma, ou bien tu veux faire partie de ceux que l'histoire va retenir, mais va les retenir à titre de rappel et d'avertissement, et après ça les oubliera. Tu dois choisir dès maintenant dans quel camp tu veux te mettre. Mais que faire? Que faire, mes chers frères et sœurs? Vous allez me dire, oui, mais d'accord, très bien, il faut agir. Et dis-leur, agissez, car Allah va voir ce que vous faites, ainsi que son messager et les croyants. Mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'ai-je à faire? Moi, je suis un simple croyant. Je viens, je fais mes 5 prières à la mosquée, et puis après ça, je rentre chez moi. Je donne un coup de main à mes frères et sœurs quand ils en ont besoin, à ma famille, à mes proches, à mes voisins, ça s'arrête là. Qu'est-ce que je peux faire? Là maintenant, vous nous avez encouragés à garder, ou plutôt à laisser derrière nous, des traces indélébiles, afin que les hasanat, nos actions après notre mort, puissent se multiplier, se perpétuer, jusqu'à la fin des temps. Mais que faire? Alors, que faire? Eh bien, écoutez bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, les cafés maintenant sont remplis. Allez à la gare du Midi à titre d'exemple. Vous verrez, mashallah. Les cafés sont remplis. Et un jour, je disais à un frère, on passait près d'un café, lui et moi, je lui disais, regarde, subhanallah. Regarde, mashallah, nos frères qui sont tous assis à ne rien faire. Il m'a dit, qui t'a dit qu'il ne faut rien? Il m'a regardé. Il m'a dit, si, il faut. Il joue aux cartes. Ronda, hein, etc. Je passe les jeux. Si, ils jouent, ils font quelque chose. Qui t'a dit qu'ils ne font rien? Regarde ce qu'ils font, ils jouent aux cartes, ils se jettent des plaisanteries, des piques, médisances. À un moment donné, on disait que c'était les femmes qui étaient les professionnelles dans tout ce qui est le commérage. On s'assied autour d'une thé, d'un café, on commence à raconter ce qui arrive à la voisine, etc. Non, même les hommes, ils ont dépassé les femmes maintenant. Il suffit de parcourir dans les cafés et à offrir un jour. Il est rentré dans un café, s'est assis, il a commencé à écouter. Il a dit, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'aurais été stupéfait. Comment ces gens restent de 10h du matin jusqu'à 10h du soir, non-stop quelquefois, et la langue qui bouge. Papa, ils ont dit, on m'a dit, et ils sont partis. Et à la fin de la journée, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu rentres chez toi pour dormir, fais un bilan. Qu'as-tu fait? Et ceux aussi qui, pareil, ceux qui passent leur temps à traîner à gauche à droite dans les rues, ou alors qui passent d'une maison à une autre, très bien, il y en a qui exagèrent, ils disent, oui, je vais visiter des frères. Mais visiter des frères, il y a des limites aussi. Ils nous sont calmes et commencent, bismillah. Abdel Qadir, Abdel Aziz, Mohamed, Abdullah, Foulan, et ils passent d'une sonnette à une autre. Tac. T'as bien, frère, Khil Habib. Barakallahu fika, tu as visité tous ces frères, tu es récompensé, inshallah. Mais après, Qu'est-ce que tu as fait? Fais ton bilan. C'est vrai, tu as dû te glisser une bonne parole à un tel, à un tel. Tu as fait un rappel, alhamdoulilah, barakallahu fik. En espérant que tu n'aies pas fait de la médisance et que tu aies cassé du sucre sur le dos de tes frères, ou alors que tu étais dans la catégorie des critiqueurs, c'est comme ça qu'on va les appeler. Ou alors des pleurnicheurs, ceux qui pleurent tout le temps. Alors, il y a beaucoup de choses à faire, mes chers frères et sœurs. Mais la première chose qu'il faut faire, si tu veux travailler pour ta Ummah, si tu viens vers moi, tu me dis, mais dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Moi, je veux travailler pour ma Ummah, pour mon Islam, qu'est-ce que je dois faire? Je te dirai la première chose. Tais-toi et regarde autour de toi. Et c'est même une méthode chez les sociologues. Ils disent que si quelqu'un veut lancer un projet ou établir un constat, il doit observer et écouter. Observer et écouter, ne rien dire. Et c'est comme ça qu'il va réunir donc une série d'éléments qui vont l'aider. Je vous donne des exemples. Assieds-toi dans ta famille, auprès de tes frères et sœurs, tes parents, tes oncles, tes tantes, tes cousins, ou pour le cas des sœurs, leurs cousines, et écoutez-les. Essayez de voir un peu qu'est-ce qui leur manque, ou qu'est-ce qu'elle leur manque. Qui parmi nous, par exemple, réserve une partie de son salaire et achète des livres et des cassettes et les distribue à sa famille? Wallah, il y a un frère qui me dit, subhanallah, et j'ai toujours négligé mes frères et sœurs. Moi, je suis tout le temps dans les conférences, dans les cours, je suis partout. Et j'ai toujours négligé mes frères et sœurs. Et bien un jour, je me suis dit, subhanallah, j'ai mes sœurs, elles sont mariées, elles ont des enfants, elles ne vont jamais aux conférences. Elles ne savent même pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à un peu de son salaire à acheter des cassettes. Et le rapporte. Wallahi, croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ses sœurs, sa mère pour commencer, qui n'allait jamais à la mosquée. Elle a commencé à prier du mois. Et si maintenant elle sait qu'il y a un dars intéressant, elle y va. Ou elle met la cassette constamment. Ses sœurs, pareil. Qu'est-ce qu'elles font? Elles commencent à aller maintenant, alhamdoulilah, à des conférences. Elles commencent à la prier. Pourquoi? Parce que ces cassettes, un petit geste, ces cassettes ont provoqué le déclic. وَلَا تَحْقَرَنَّ مِنَ الْمَعْرُفِ شَيْءٍ وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقَ. Ne méprise aucun ma'ruf, aucun acte, aussi petit soit-il. Car Allah, tu ne connais pas les conséquences. Tu ne sais pas ce qui peut provoquer par après et engendrer. Alors regarde dans ta famille, dans tes proches. Regarde auprès de tes frères et sœurs qui sont autour de toi, que tu fréquentes et côtoies au quotidien. Et après ça, fais ton petit bilan. Commence à ton niveau à toi, pour commencer. Mais avant ça, tu dois casser deux barrières importantes. Retenez ces barrières, mes chers frères. Retenez ces deux barrières qu'il faut absolument casser et détruire. La première des barrières, c'est le fait de croire que la da'wa, c'est uniquement pour les prédicateurs et les savants. Uniquement pour eux. Elle dit, moi je ne fais pas de da'wa, je n'ai pas de science, je n'ai pas de rien, je n'ai jamais étudié, donc je ne fais pas de da'wa. Ça c'est faux. Dans ton travail, ça on va y venir, dans ton travail tu peux faire la da'wa. Le fait que tu es mécanicien, tu fais ton travail correctement, c'est une da'wa. Tu prêtes un bon conseil nasiha dans le cadre de ton travail, c'est une da'wa. Et la deuxième barrière à casser absolument, et retenez-les bien ces deux barrières, mes chers frères et sœurs, c'est d'attendre que les autres bougent. On a souvent cette réflexion. Non, il y a mieux que moi, Inch'Allah. Il y a mieux que moi. D'autres feront ça à ma place. Vous savez, malheureusement, chacun d'entre nous pense de la même façon. Chacun d'entre nous pense de la même façon en disant « J'attends que les autres bougent, et après je verrai. » Et l'autre pense comme toi. Et à la fin, personne ne bouge. C'est pas difficile. Abdullah attend qu'Abdelaziz bouge, Abdelaziz attend que Jamal bouge, Jamal attend que Mohamed bouge, Mohamed dit le contraire, j'attends qu'Abdelaziz bouge, Abdelaziz, Mukhtar. Et à la fin, personne ne bouge. Et à la fin, il y a une situation d'immobilité. L'immobilisme. Personne ne bouge. Et c'est ça notre drame actuellement. C'est que personne ne bouge, chacun reste dans son petit coin et attend que l'autre fasse quelque chose. Établis ton constat autour de toi. Donc, important de casser, très important de casser ces deux barrières. Qui peut me la rappeler, deux barrières? Et là, deuxième barrière? Donc le fait de croire que la da'wa, la prédication, le fait de transmettre un message, c'est uniquement pour les savants, pour les tolab'in, pour les prédicateurs, ceux qui ont la science uniquement pour eux. Moi je n'ai rien, je n'ai pas de niveau, je n'ai rien à dire. Non, c'est faux, c'est complètement faux ça. Et l'autre barrière, attendre que les autres bougent. Et ça aussi c'est un fléau. En fait, tu te sous-estimes. Tu te sous-estimes et tu te dis, non, un tel est mieux que moi, lui le fera. Pas du tout. Et je voudrais vous citer un exemple de notre histoire. Il y a un savant qui est arrivé dans une région. Et ce savant s'affilie à une école de jurisprudence musulmane qui s'appelle l'école Shafirite, Madrasa Shafiriya. Lorsqu'il arrive dans la région, ce savant veut propager le savoir de son maître, de son école. Donc, al-fiqh Shafiri. Vous savez ce qu'il faisait? Regardez bien, écoutez bien. Il était motivé. Il incitait les gens à étudier par cœur un livre qui fait partie des manuels didactiques premiers ou de base plutôt dans l'école Shafirite, ce qu'on appelle Mukhtasar al-Muzani. Un livre qui s'appelle Mukhtasar al-Muzani dans le fiqh de l'école Shafirite. Il disait, celui qui retient ce livre par cœur, je lui donne tel montant d'argent. Vous imaginez? Tu étudies ce livre, je te donne de l'argent, c'est pour toi. Et par cette méthode, il a réussi à répandre un savoir bénéfique, utile, dans toute la région. À l'opposé, le savant Ibn Aqil nous parle de l'école Hanbalite, Al-Hanabila. Leur école, au niveau de son expansion, l'école Hanbalite, au niveau de son expansion, très limitée. D'ailleurs, si vous voyez dans le monde musulman, l'école Hanbalite n'est pas répandue comme l'école Malikite, Shafi'ite, Hanafite. Elle est très limitée. À part l'Arabie, également certaines régions, certaines parties de la Syrie, de l'Irak, etc. Ou sinon, en dehors de ça, ils sont très limités. Qu'est-ce que dit Ibn Aqil? Il dit, l'une des raisons qui a fait que notre école ne s'est pas répandue, que le savoir de notre école ne s'est pas répandu, c'est que nos maîtres de sciences se retiraient, n'aimaient pas les projecteurs. Ils préféraient se retirer pour l'ilm, pour l'enseignement, et préféraient se retirer aussi pour l'ibada, l'adoration et zuhd, la cesse. Voilà. Alors que les autres écoles qui ont travaillé aussi pour l'islam, l'école Shafirite, Malikite, ainsi que Hanafite, eux, n'hésitaient pas à utiliser les postes clés. La justice, al-qada, être juge, et également al-ifta, le poste de mufti, par l'entremise duquel ils peuvent mettre en évidence les règles méthodologiques de leur école, et aussi al-khataba, al-imama, donc la khutba du vendredi, l'imama de la mosquée, là aussi, ils mettent en évidence certaines approches jurisprudentielles de leur école par rapport à telle ou telle question de faire de jurisprudence, et ainsi leurs écoles s'est répandue. Alors que les autres ont préféré dire non, moi, je ne veux pas être sous les écrans ou sous les projecteurs, je me retire. Et nous, on ne veut pas ça, mes chers frères et sœurs. Ne sois pas de ces gens-là. Ne sois pas de ceux qui disent, moi, je ne veux pas d'écran projecteur. Parce que ça, comme le dit Ibn Qayyim, c'est l'un des pièges de Satan. Satan, qu'est-ce qu'il te fait croire? Il t'empêche de faire un bien. Il vient par une autre porte. Il te dit, attention, les gens vont commencer à parler de toi. Tu vas devenir une autorité. Tu vas devenir, entre guillemets, une star. Attention, attention, Satan peut être un très bon conseil, entre guillemets, mais dans le mal. Attention, ta sincérité et l'ikhlas va en prendre un coup, tu vas tomber dans le réel de l'ostentation, tes actions seront annulées. Et vient par ce beau discours, et par là même, il t'empêche de produire un khir, un bien que tu peux apporter pour ta umma et ta communauté. Ne tombe pas dans ce piège. Sois sincère, travaille ta foi, ta sincérité, reste humble et modeste, et donne ce que tu as donné. Tu as un ilm à donner, donne-le. Tu as une compétence à donner, donne-la. Tu peux aider des institutions, des mouassassas, des projets islamiques, aide-les. Alors je vais vous citer maintenant quelques domaines où il y a moyen de travailler, de bouger pour sa foi et sa religion, inshallah. Ce sont des exemples, tout simplement. La première des choses, c'est que tu maîtrises ta profession. Tu as un travail, tu es médecin, sois honnête. Fais ton travail correctement. Tu es mécanicien, n'arnaque pas celui qui vient t'apporter sa voiture en lui faisant croire que, malheureusement on voit ça maintenant de nos jours si souvent. En fait, subhanallah, il y a un comparatif assez étonnant, les mécaniciens et les médecins. Quand on va chez le médecin, on voit parce qu'on a une douleur, on ressort de chez lui avec 15 douleurs. on vient pour une maladie. On a un mal de tête. Alors il vous sort toute une liste. Non, il n'y a pas que ça. T'as un problème de foie, t'as un problème de rein, t'as un problème ça. À la fin, le frère ou la sœur sort lessivé du cabinet médical. La voiture, pareil. On va chez le mécanicien, c'est le même système. On va chez le mécanicien, même problème. Je viens parce que j'ai un problème de frein. Il me dit non, il n'y a pas que le frein. Tes pneus, attention, sont usés, il faut les changer. Ton tuyau, je ne m'y connais pas en mécanique. Hein. Je sais quel tuyau, quelle pièce il faut retirer. Bref, tu viens pour une chose, tu en ressors avec 10. Alors que normalement, la personne intègre et honnête doit te dire ce qu'il y a à sa juste mesure. Tu as un problème, il ne peut pas te cacher la vérité. On ne peut pas cacher une vérité. Il se peut que tu viennes pour une maladie, par exemple, mais que le médecin constate qu'il y a autre chose à côté. Il doit te le dire. Il ne doit pas dire non, je ne vais rien lui dire, sinon je vais l'effrayer. Il doit dire. Ou alors ta voiture, elle a un autre problème, il doit te le dire. Mais de nos jours, voilà, il y a des gens qui n'osent même plus aller chez le médecin. Il y a des gens qui ne veulent même plus aller chez le médecin, et même chez le mécanicien, il ne va plus. Il préfère réparer sa voiture lui-même. Et si elle meurt, ben, elle n'a qu'à mourir. C'est pas grave. Donc, maîtrise ta profession, ton travail. Kun nasuhan, sois quelqu'un de sincère dans tes conseils. Quand quelqu'un va te demander un conseil, eh bien, prête-lui le meilleur des conseils. Et en même temps, transmets-lui un message. Parce qu'il y a des gens, vous savez, on rate beaucoup de carrefours, nous les musulmans. Combien de fois nous recevons des non-musulmans dans notre travail? Leur avons-nous parlé d'islam? Ou même des frères et sœurs à nous, qui sont peut-être un peu loin dans leur pratique. Avons-nous pris la peine de leur parler un peu d'islam, de leur parler de la foi, etc.? C'est très rare. On est devenu très, très professionnaliste. Je fais mon travail, j'ai un salaire, je m'arrête là. Stop, je ne vais pas plus loin. Et ça, c'est une erreur. Ça, ce n'est possible que pour celui et celle qui a fait de son bas-monde, de son risque, le premier souci. Le reste, pour lui, ce n'est pas important. Un autre domaine aussi, où il y a moyen de s'investir, les études. Faire des études. Tu vois que dans ta communauté, il y a un manque, il y a certaines carences. Eh bien, étudie. Wa ummatuna ummatu amal. Notre communauté est une communauté de travail, d'action. Pas de fainéantise. Le prophète, lorsque les juifs de Médine venaient le voir parce qu'ils avaient un problème ou un différent entre eux, ils avaient un différent entre eux, que se passait-il? Le prophète étant illettré, les rares compagnons qui savaient lire et écrire, ne connaissant pas l'hébreu, et leur donne au compagnon Zayd ibn Thabit, il lui dit: Zayd, va apprendre l'hébreu. En 19 jours, il apprend l'hébreu. En 19 jours, il apprend l'hébreu et il devient le traducteur, interprète du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les juifs viennent, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jugeait les juifs d'après la Torah. Lorsque Eliyahu, les juifs de Médine, venaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ouvraient leurs livres devant lui, viens Zayd, dis-moi ce qu'il y a ici. Après ça, un grand homme va se convertir à l'islam, et qui est Abdullah ibn Salam, un grand rabbin de la communauté juive de Médine, un grand rabbin juif de Médine, il va se convertir à l'islam, et depuis lors, il va devenir le conseiller du prophète sallam pour les questions juives de Médine. C'est lui son conseil, parce que c'est un théologien, c'est un savant. Il connaît les textes, donc toratiques, les textes de la Torah. Donc il sait de quoi il parle. Il connaît, entre guillemets, ses co-religionnaires. Regardez les gens qui ont compris qu'il faut s'investir absolument. Donc si tu vois qu'il y a un manque dans la communauté, et que toi tu es capable de t'investir, tu es capable d'apporter, eh bien fais-le. Aussi, je voudrais citer d'ailleurs un exemple avant de passer au domaine suivant. Un jour, il y a deux frères qui sont venus me voir et m'ont dit les deux frères sont assez compétents en informatique. Alors ils m'ont dit voilà, on voudrait s'investir. Moi, en tout cas, j'étais très content de voir que ces deux frères veulent travailler pour leur communauté. Alors ils m'ont dit voilà, en fait, conseille-nous parce que nous on veut s'investir pour la Oumma, pour la communauté, mais on ne sait pas quoi faire. Conseille-nous. Je dis, vous êtes informaticien, oui. Qu'est-ce que vous avez comme penchant? L'informatique, c'est vaste. Il y a des programmeurs, il y a des analystes, etc. etc. Alors, ils disent, nous, on aime bien tout ce qui est, tout ce qui est montage en utilisant l'informatique. Je leur dis, vous savez quoi? de mon expérience. Ce qui nous manque beaucoup maintenant, c'est des spécialistes de l'audiovisuel. Les spécialistes du son et du visuel, ça nous manque énormément. Vous êtes informaticien, vous êtes compétent, eh bien, investissez-vous là-dedans. Eh bien, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas resté du blabla. Ils se sont mis au travail. Ils se sont mis au travail, ils ont commencé, l'un d'entre eux a suivi des cours, un autre a suivi des cours particuliers, bref, ils se sont lancés. Et il n'y a pas longtemps, ils sont venus me voir en me disant, on vient te rassurer, alors on est lancé sur ce qu'on avait décidé. Alhamdulillah. Ça, c'est les frères qui ont compris. Qu'il ne faut pas rester les bras croisés à pleurnicher ou à critiquer. Qu'il faut se mettre. Mets ta main dans la pâte et dis bismillah. Khoudi kitab yaqouwa, prends le livre avec force. Donne ce que tu peux donner pour ta umma. Tu es quelqu'un qui a le style littéraire, tu sais écrire. Eh bien, écris. Bon, n'écris pas n'importe quoi. Reste dans tes compétences. On ne va pas demander à un boucher de parler de plantes ou bien de médecine. Mais si tu sais écrire, eh bien, de ce que Allah t'a donné, dis bismillah. Aussi, participer dans un projet ou dans un cadre associatif. Tu sais qu'il y a une association qui travaille dans la da'wa, qui s'investit. Eh bien, travaille avec eux. Aide-les. Rien qui est parfait, mes chers frères et sœurs. Il n'y a rien qui est parfait. Tu vas trouver des frères qui vont peut-être t'ennuyer, ils vont peut-être... Tu auras des petits hicks avec certains frères, mais toi, tu n'es pas là pour ça. Kun fi dunya ka annaka gharib aw abul sabil. Sois dans ce bas monde comme un étranger ou un passant. Tu n'es pas là pour qu'on te fasse une appréciation ou une critique. Tu es là pour travailler. Et on va y venir par rapport aux critiques après, Inch'Allah. Donc, s'il y a un projet qui naît ou qui existe, et renseigne-toi bien au sujet de ce projet. Parce qu'il faut que ce projet profite pour la communauté. Pas un projet qui apportera plus de tort que de bien. Et ça, on va y venir comment faire la démarche, Inch'Allah, après. Eh bien, investis-toi. Et je ne le dis pas à titre de publicité, mais à titre d'exemple. En tout cas, depuis des années, à travers notre travail au centre islamique, nous recevons beaucoup de cas sociaux. Même trop. Et ça prouve que la communauté est très malade. Et même très malade. Et en tout cas, j'ai été personnellement très très content de voir que, par après, il y a un groupe de sœurs qui ont créé une ASBL. Elles sont toutes, ces sœurs sont toutes assistantes sociales. Elles ont créé une ASBL qui s'appelle le Figuier. Le Figuier, c'est une ASBL qui offre une permanence. Elle se trouve à Skerbeek. Elle offre une permanence aux personnes qui ont des problèmes. Pour les conseiller, essayer de les réconforter, mais aussi pour les orienter par rapport à certains de leurs droits, etc. Et bien, alhamdulillah, ça, ce sont des sœurs qui ont compris qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Tu as les compétences, eh bien, apporte-la pour la communauté. Elles ne le font pas pour elles. Et voilà, elles ne sont même pas payées. Elles ne sont même pas payées pour ce qu'elles font. Elles le font bénévolement. Et elles doivent subir à leurs frais, donc tout ce qui est loyer, le fait de payer les charges, etc. Laquelle, je peux vous garantir une chose, c'est qu'alhamdulillah, qu'Allah en tout cas les encourage, c'est que leur projet avance très très bien. Alhamdulillah. En tout cas, on ne peut que les encourager. Donc voilà des gens qui ont compris. Bien, toi, si tu vois qu'il y a un projet où tu peux t'investir, tu as une compétence, eh bien donne. Tu es fort dans l'informatique, bismillah, donne. Tu es fort dans tel domaine, donne, bismillah, vas-y, investis-toi. Aussi, parmi les domaines où tu peux t'investir aussi, la da'wa avec des bonnes paroles, un petit livre et une petite cassette. C'est pas beaucoup ça. Et encore nous, mashallah, quand tout ce qui est dunya, on cherche à avoir le maximum. On cherche à avoir la véranda, on cherche à avoir le meilleur des salons, on cherche à avoir la meilleure des voitures, à construire 3-4 maisons, etc. Ben, tout ce qui est dunya, tout ce qui est matériel, on n'est pas modeste pour ça. On fait le maximum. Mais par contre, tout ce qui est pour notre din, tout ce qui va nous rapporter un grand bénéfice, fait l'akhira, qu'est-ce qu'on fait? On fait le minimum, le contraire. Pour la dunya, on fait le maximum. Et pour notre din, on fait le minimum. C'est l'inverse. Les paramètres sont inversés. On fait le minimum. Alors que normalement, c'est le contraire qui doit exister. Pour ton dunya, cherche ce qui te rassure, stabilité. Et pour l'akhira, l'au-delà, parce que tu ne fais que passer ici. Eh bien, investis au maximum. Asma bint Abi Bakr, la fille d'Abu Bakr, radiallahu anhu, ardaha. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam partait en expédition, elle a donné un de ses vêtements qu'elle avait besoin. Elle l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle ne savait pas à quoi attacher. Le reste de ses vêtements, elle ne savait pas quoi attacher. Alors elle a dit à son père, il me reste sur de longues ceintures, on appelle ça une épave, une longue ceinture, comment je dois faire? Il lui a dit, coupe-le en deux et attache tes vêtements. Et depuis lors, on l'a surnommé Zatun Nitaqin. Zatun Nitaqin. Regardez ce qu'elle a fait. Des choses qui lui sont chères, elle le donne. Nous, c'est le contraire. Nous, ce qui nous est le plus cher, on le garde. Et ce qui est secondaire, on le donne. Je vous donne un exemple. Vous connaissez sûrement l'organisme humanitaire Islamic Relief. Islamic Relief, il ramasse souvent des vêtements. Donc pour nos frères et sœurs en Palestine, en Tchétchénie, en Irak et dans bien d'autres contrées musulmanes, eh bien allez voir les types de vêtements qui sont là. Allez voir les types de vêtements que les gens donnent. Illa marahma rabbi. Ils donnent un pantalon troué, l'autre donne un chemisier qui date de 40-45. Bref, tous les vieux trucs, on balance. Alors que Ibn Omar, c'est déjà bien qu'on le fasse. Alors que le compagnon Abdullah ibn Omar, lorsqu'il a entendu le verset suivant, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez pas le stade de la vertu jusqu'à ce que vous dépensiez de ce qui vous est le plus cher. Ah ben directement, il était investir les biens qui lui sont le plus chers. Et même un compagnon qui s'appelle Abu Talha al-Ansari. Abu Talha al-Ansari, lorsque ce même verset est descendu, surat al-Baqarah, surat la vache, ce verset est descendu. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez pas le stade de la piété, la vertu, jusqu'à ce que vous dépensiez ce qui vous est cher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait ce qu'on appelle un jardin, avec un puits et des palmiers. Ça lui appartient. Abu Talha al-Ansari, c'est un homme riche, aisé. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dit au prophète, il a dit, خذها يا رسول الله. Prends tout le parc, tout le jardin, je le donne. Je le donne, fils Abilillah, bismillah. Juste en écoutant ce verset. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Vous n'atteindrez pas la vertu, la piété, jusqu'à ce que vous dépensiez ce qui vous est le plus cher. Et il a donné non seulement son jardin, mais avec tout ce qu'il y a dedans, à savoir le puits d'eau qu'il y avait, surtout à l'époque où l'eau n'était pas très disponible, plus les palmiers qui sont profitables également. Il a tout donné. Eh bien, nous, c'est le contraire maintenant. Nous, ce qui nous est le plus cher, on le garde, parce que c'est matériel. Ce qui est secondaire, de seconde main, on s'en débarrasse parce que ça encombre nos armoires, et ça encombre nos placards, et ça encombre nos caves. Alors, mieux vaut donner. C'est bien, alhamdoulilah, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien. C'est bien de donner. Mais t'arrive-t-il quelquefois, chers frères et chers sœurs, de donner ce qui t'est cher? Chose très rare. Tu donnes une cassette, un livre, tu ne sais pas l'effet que ça a et que ça peut avoir plus tard. Combien de personnes se sont repenties par une cassette? Ils ont écouté une cassette sur le repentir, sur les péchés, sur la foi. Ils se sont remis dans le droit chemin. Combien de personnes ont lu un petit livre que tu leur as offert? Et c'était le déclic pour qu'ils reviennent vers le chemin de la droiture. Qui parmi nous consacre, comme je le disais au début, consacre une partie de son budget pour donner à ses proches, pour distribuer plutôt à ses proches des cassettes, des livres? C'est rare. Et à Médine, il y avait un frère que je n'ai pas connu personnellement, mais j'ai connu quelqu'un qui était intermédiaire, qui me racontait son cas. C'est un frère, les frères m'ont dit, quand vous le voyez, c'est un frère très ordinaire, très simple. Ce n'est ni un savant, ni un prédicateur, ni rien. C'est un frère, minas salihin, parmi les jeunes pieux, sans plus. Vous savez ce qu'il faisait? Chaque mois, il retirait une partie de son salaire. Et il allait dans ce qu'on appelle les librairies de cassettes islamiques, conférences, et il achète. Il partait avec 500, des fois 1000 cassettes. Et il a quadrillé tout son quartier. Tout son quartier. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Son épouse et lui-même, parce que même son épouse, mashallah, lui aussi, il veut mettre la main dans la pâte. Mais pas seulement la pâte de la cuisine, la pâte aussi, ici, de la da'wah. Alors, elle aussi, elle l'aidait. Alors, les femmes sont souvent assez raffinées. Parce que bon, comparer entre quelqu'un qui vient faire un emballage cadeau, un homme qui fait un emballage cadeau avec une femme, ça n'a rien à voir. Il faut comparer. C'est quelquefois, c'est comparer le jour et la nuit. Les femmes, alhamdoulilah, sont beaucoup plus raffinées, elles ont plus de tact. Donc, sur ce plan-là. Alors, elle l'aidait à faire des belles petites boîtes avec une cassette, un petit livre. Et il a cadré tout son quartier. Il leur a donné. Et un jour, il est parti à l'un des hôpitaux principaux de Médine. Lorsqu'il est rentré, il commence à discuter avec un médecin. Un médecin qui n'est pas du pays, un étranger. Alors, je lui ai dit, voilà, est-ce que tu as l'occasion de suivre des doros, d'écouter des conférences? Il a dit, on n'a pas le temps, ils sont fait travailler, on fait que turbiner ici. Et il a été voir le frère, écoutez bien, le frère a été voir le directeur d'hôpital. Il lui a dit, je vois ici que vous avez pas mal de médecins, d'infirmières qui viennent de l'étranger. Avez-vous un programme pour eux de conférences, de, je ne sais pas moi, quelque chose qui peut un peu nourrir leur foi? Il a dit, non, on n'a rien, ils ont des contrats, ils travaillent, point à la ligne. Il a dit, ben, permettez-moi d'apporter un stock de cassettes en plusieurs langues, parce qu'il y a aussi des Indonésiens, Philippins, etc., en plusieurs langues, et de leur distribuer. Et le directeur d'hôpital était très content. Il fait, non, nous on peut avoir un budget. Il a dit, non, je veux pas de budget, ce sera demain prochain mois. Voilà quelqu'un qui a compris c'est quoi travailler pour l'akhirah. Là, si on ouvre notre home banking, celui qui a le PC, qui ouvre le home banking et qui voit dans son compte bancaire Fortis, je ne sais quoi, qu'il y a 200 euros qui ont disparu, je ne sais pas où, il fait un scandale. Il va à la banque, il leur fait un scandale, il leur crie dessus, il y a une erreur, ceci, cela, il va au tribunal contre eux. Alors que Hada, il a perdu plus que cela. Mais il l'est, pour Allah Azza wa Jal. Alors où sommes-nous par rapport à ces frères et sœurs-là? Aussi, bon, on avait parlé de l'écriture, il y a aussi l'histoire de ce jeune homme qui avait une passion d'écrire et d'entretenir une correspondance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a malheureusement des revues qui consacrent une colonne pour les connaissances. Donc un garçon envoie sa photo avec son adresse, etc. Une fille fait pareil, alors ces revues font des contacts. Alors ils se sont dit, mais pourquoi on ne va pas récupérer les adresses qu'il y a dans ces revues et on essaie de leur envoyer des livres et des cassettes. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et wallahi, thumma wallah, l'un d'entre eux, l'un de ces jeunes qui passait son temps à correspondre avec des filles, etc., l'un d'entre eux a reçu des livres et des cassettes et il s'est repenti. Et il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre qu'il a envoyée à l'un des frères qui lui a envoyé ses cassettes en le remerciant parce qu'il lui a ouvert ses yeux. Et vous savez ce qui s'est passé? Ce frère qui a reçu la lettre est parti chez un savant et le savant s'est mis à pleurer. Wallahi ta'athar al-alim. Il s'est mis à pleurer lorsqu'il a lu la lettre, lorsqu'on l'a lu plutôt la lettre de ce jeune homme qui s'est repenti grâce à ce geste qui nous paraît anodin mais qui peut profiter donc à beaucoup. Il y a bien d'autres. L'internet aussi. Profitez de l'internet également. Malheureusement, lorsque vous retournez sur les forums de discussion, wallahi, je suis rentré 2-3 fois, je n'y suis plus retourné. Que des insultes. Des insultes, des tapes dessus. Et sans parler des critiqueurs qui, mashallah, sont partout, qui passent leur temps, le premier conférencier qui passe, il ne faut pas l'écouter, ça, il n'est pas bon. Ou alors une liste automatique, des questions-réponses rapides qui traitent. Que pensez-vous d'un tel? Égaré. Voilà, vous êtes suivant. Avec cette facilité, on prononce des jugements sur les serviteurs d'Allah. Allah, c'est très grave. Eh bien, l'Internet aussi. Le fait que tu envoies via tes contacts, par exemple, tu connais un site intéressant, de Coran, ou de quoi que ce soit, ou de Hadith, ou des paroles sages, que tu l'envoies à pas mal de personnes, eh bien, là, t'as le hasanat.
Ça, c'est une da'wah aussi. Et d'autres vont faire pareil avec d'autres. Et ça va se multiplier, inshallah, bi'idhnillah.
Alors, il y a beaucoup, bien sûr, comme action. Alors, je voudrais vous citer ici rapidement, parce que le temps presse, rapidement, certaines conditions qu'il faut remplir pour se lancer dans ce travail qui est fructueux, qui, bi'idhnillah, sera pour vous tel un conteneur ou des conteneurs remplis de hasanat et qui vous aideront dans l'au-delà, bi'idhnillah. Premièrement, l'ikhlas. Fais-le pour Allah Azza wa Jalla. Ne regarde pas les gens. Et ne recherche pas l'autorité. Même si tu es connu malgré toi, ne fais pas attention à ça. Il faut que les critiques des gens et leur appréciation soient au même niveau pour toi. Et ne dis jamais c'est moi qui ai fait. C'est pour moi, c'est à moi. Mais fais-le pour ta communauté. Deuxième condition importante, c'est que ce travail que tu fais, ce projet ou cette action que tu entames, car tu dois être un artisan du changement. Sani'ut taghyir. Tu dois changer ce qui est autour de toi. Fais en sorte que ton action ou ton projet, ton agissement, soit conforme au shara, soit conforme à l'enseignement. Ne fais pas des choses qui sont déviantes, ne fais pas de ta tête, mais renseigne-toi bien et assure-toi que c'est fait dans les règles. Troisièmement, al-nazaha wa shafafiyya, la transparence. Et combien de projets islamiques ont échoué à cause du manque de transparence, et surtout dans l'argent. Si tu as plein à faire un projet, il y a des frères qui ont des projets commerciaux très intéressants. Non seulement ils se font de l'argent licite, alhamdoulilah, mais en même temps ils rendent service à leurs frères et sœurs. Mais souvent ces projets éclatent, pourquoi ? L'argent. Monnaie. De monnaie, l'argent. Voilà, ils se mettent à se disputer. Suspicion entre, le bilan n'est pas complet, l'autre critique. Et après ça, ce projet qui était bénéfique tombe à l'eau et c'est terminé. Et ses frères sortent et le quittent avec de la haine et de la rancune l'un pour l'autre. Ça, c'est les conditions principales. Il y a une série de bienséances. Si tu veux agir, tu veux travailler pour ta Ummah, tu veux travailler pour ton Islam, tu veux garder, tu veux laisser derrière toi des traces dans l'histoire, demande conseil. Ne te lance jamais comme ça à l'aveuglette. Comme ça, par un beau matin, tiens, tu penses à un truc, bismillah. D'abord, demande conseil à des gens qui sont compétents et qui ont l'expérience. Deuxièmement, ordonne, mets sur pied un plan de travail. Nous, malheureusement, nous sommes les gens les mieux organisés. Plutôt les moins organisés, pas les mieux, les moins, c'est un lapsus. Nous sommes malheureusement les gens les moins organisés. Tu donnes un rendez-vous à un frère, tu dis, écoute, on se voit, inshallah, à 5h. D'accord. 17h. Maintenant, il faut bien préciser. Moi, c'est 17h ou bien 5h. Moi, c'est 5h du matin, mais 17h. Alors, tu attends, tu es là à 17h en train de l'attendre. Oui, il arrive à quelle heure? Il arrive à 19h. Fais une écoute, tu attends. Qu'est-ce que tu veux? Machin, quel problème, Kadal? Feu rouge, la voiture, bref. Je vous passe les détails. Et dès qu'il y a un frère qui est avec lui un agenda, il est ordonné, il a rendez-vous ici, il doit organiser cela, tout le monde le regarde à travers. Quel orgueil, celui-là, quel motocabir. Pour qui il se prend? Il se prend pour un PDG, pour un directeur général. Qu'est-ce qu'il a frimé sur nous avec son agenda? C'est quoi ça? Et après, si toi tu n'es pas organisé, laissez-lui s'organiser. Et la maturité organisée, la preuve, nos prières ne se font-elles pas par an? Derrière l'imam, on doit le suivre dans les moindres gestes. Ramadan, on commence tous ensemble. Vous avez vu quelqu'un qui a commencé à Shawwal Ramadan? On commence tous ensemble. El Hajj, on va tous à la Mecque avec un rituel bien défini. Notre islam est synonyme d'organisation dans tout. Lakin subhanallah, un jour un frère partait au Maroc et il était donc en Espagne. Et à un moment donné, le propriétaire de la station service qui était là lui dit: vous savez, vous les musulmans, vous m'avez toujours épaté. Ce que j'admire chez vous, c'est votre discipline dans la prière, vos ambitions. Mais par contre, ce qui me répugne chez vous, c'est votre désordre et votre manque de respect pour la propreté publique. Elle dit, vous rentrez dans le parquet, vous laissez dégueulasse quand vous sortez. Alors que je vous vois en train de prier en rang, etc., organiser les ablutions. L'endroit des ablutions, c'est plus d'ablutions. C'est carrément une salle de bain.
ou carrément, je ne sais pas moi, un bassin d'eau, c'est plein d'eau partout. Le bac poubelle est juste là, lui, au lieu de jeter, de lever le bac, de le jeter, regarde par la fenêtre, vous êtes. Voilà notre drame, voilà. Ben là, il y a un problème quelque part. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas bien compris ce que veut dire appartenir donc à l'islam et aussi l'organisation que nous demande notre islam. Donc, organise ce que tu veux faire et demande conseil. Aussi, troisièmement, j'arriverai à la fin, Inch'Allah, troisièmement, mieux vaut faire peu de choses, mais maîtriser que beaucoup et arrêter. Il y a des gens qui se lancent dans 15 projets, et puis à la fin du mois, ils s'essoufflent et ne font plus rien après. Il prend un congé sabbatique, non pas d'un an, mais de 15-20 ans. C'est fini, on ne le revoit plus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiallahu anha, a interrogé le prophète en lui disant, « Ya Rasulallah, ayyul a'mal ahabu ilallah. » Quelles sont les actions qui sont les plus aimées auprès d'Allah ? Il lui a dit, « Adwamuha wa in qallat. » Ce sont les actions qui sont les plus continues, même si elles sont moindres et minimes. Mieux vaut que tu fasses une petite action, en espérant plus tard en faire plus, mais au début en faire une petite, mais ordonnée, que de faire plein tout à la fois, et à la fin tu ne fais plus rien. La patience, as-sabr. Sois patient, cher frère, chère sœur. Wallah, tu vas être critiqué. Il y aura des gens jaloux. Et vous savez, les critiques, elles viennent souvent de qui ? Elles viennent souvent des gens qui sont des gens incapables, ou plutôt des gens qui ne veulent rien faire et qui cachent leur incapacité, leur impuissance. Ils la cachent derrière un rideau, un écran de critique et de reproche aux gens. Ne fais pas attention aux gens. Et je terminerai, Inch'Allah, en citant pêle-mêle certains points importants par rapport à certains obstacles qu'on peut rencontrer sur tout projet ou toute initiative qu'on entreprend. Premièrement, certains peuvent arrêter sous prétexte qu'ils travaillent. Ils disent, voilà, je travaille, j'ai plus le temps. Ça, c'est faux. Un sahaba qui était plus pauvre que nous, un sahaba, kanu afqara minna bi kathir, les compagnons qui étaient plus pauvres que nous, et malgré tout, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont propagé l'islam partout, jusqu'en Chine. Des gens pauvres, avec des vêtements rapiécés. Nous, aujourd'hui, on a notre, entre guillemets, confort matériel, et malgré tout, on se cache sous une fausse excuse en disant, mon travail me prend beaucoup de mon temps, je n'ai plus le temps. C'est complètement faux. Deuxièmement, je résume, hein, parce que j'avais plein de commentaires, mais on fait des signes comme quoi il faut arriver à la fin. Deuxièmement, se décharger de tout travail de dire, les autres le feront à ma place. On en a déjà parlé. Troisièmement, passer son temps à critiquer les autres, ce que j'ai dénommé les critiqueurs. Quatrièmement, avoir peur des critiques. Alors il y a des gens qui sont tellement motivés. Le jour où on leur fait une critique, ils lâchent tout. Ils disent, ben les gens, Akhil Habib, Ukhti Habiba, ne regardez jamais ce que les gens disent, mais plutôt préoccupez-vous de ce que Allah pense de vous. Wa qul i'malu fa sayara Allah 'amalakum wa rasuluhu al-mu'minun. Et dites-leur, agissez, car Allah va voir ce que vous faites ainsi que son messager et les croyants. Et les critiques, quand tu les entends, tu les écoutes, retiens-les et classe-les dans l'une des trois catégories. Retenez-les, ces trois catégories. Les critiques qui te parviennent, les remarques sur ce que tu veux comme projet, elles sont de trois types. Il faut les retenir. فَحْفَظُوهَا فَكُلُّ حَافِدٍ إِمَامٍ. Premièrement, il y a des critiques constructives. Effectivement, il y a une faille quelque part, il y a une carence quelque part, il y a juste que tu as manqué, que tu as négligé. Eh bien, profite pour améliorer. Il y a des critiques qui sont infondées, c'est du n'importe quoi. Mais ça, il faut être sincère pour ça aussi. Tu ne les retiens pas. Et la troisième critique, c'est ce qu'on appelle النقد أو الملاحظة القابلة للاحتمال. Ce sont des critiques qui sont discutables. Tu as un point de vue, quelqu'un d'autre a un autre point de vue. Et là, tu dois réfléchir, méditer et trancher, voir ce qui est le meilleur. Et quelquefois, abandonner ton propre avis pour opter pour celui donc de l'autre. Et cinquièmement, le fait de passer d'une action à une autre. Il y en a qui passent comme celui qui passe d'un wagon à l'autre. Il passe d'une action à une autre. Aujourd'hui, comment ça? Parce que c'est sur un coup de foudre ou un coup d'émotion. Il va s'investir assis dans une conférence, il va organiser un colloque, etc. Demain, il va faire autre chose. Il n'a pas terminé le premier travail, il est déjà passé à un autre. Après-demain, s'il dit, il y a autre chose qui est né. Voilà. Il a reçu une révélation. Je dois faire ça. Bismillah, il est parti. Et à la fin,
il n'a rien fait du tout. Et le dernier aussi des obstacles dans tout ce que nous entreprenons, istirjal al-thamara wa istibta' al-tariq, c'est le fait de se précipiter à obtenir un résultat rapide et voir que le chemin est trop long. Alors il y a beaucoup de gens parmi nous dans notre communauté qui lâchent, qui baissent les bras parce qu'ils voient que les défis sont trop grands et qu'on ne pourra jamais y arriver. Alors ils se disent, ben c'est peine perdue. Abadan, le prophète aimait ce qu'on appelle al-fa'l al-hasan. Al-fa'l al-hasan, c'est toute parole qui implique espoir, qui implique espérance. Tu ne dois jamais désespérer. Regarde Nuh alayhi salam. Nuh alayhi salam, il est resté combien de temps prêcher la da'wah? 950 ans. Falabita fihim alfa sanatin illa khamsina ama. 950 ans il prêche, alors que son peuple, sa nation, se détourne de lui et se moque de lui. Et pourtant il a continué jusqu'à la fin. Comme ça au moins devant Dieu, il peut s'estimer qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Donc il ne faut jamais désespérer et ne jamais attendre. Peut-être toi tu n'auras pas le fruit, mais tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants des enfants de tes enfants l'auront, Inch'Allah. Sème les graines et laisse quelqu'un d'autre venir les récolter, Inch'Allah. C'est ça, agir, et c'est ça. Essayer de rechercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Donc, وَقُلْ يَعْمَلُوا فَصَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Et je terminerai par une petite remarque, mes chers frères et sœurs. Tout projet, toute action que vous commencez, ne regardez jamais la fin, mais regardez le début. Si tu regardes la fin, ben, tu vas baisser les bras. Tu vois que c'est trop loin, le début. Satan va te mettre des obstacles sur ton chemin. Tu devras les surmonter. Tu auras des défis à relever, tu devras les relever, Inch'Allah. Et une personnalité forte. Et ne sois pas de ceux qui, lors du premier coup de vent, ils préfèrent faire marche arrière et ne pas avancer. Pas du tout.
Et donc ça, c'est la fin de ce sujet, mes chers frères et sœurs. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa jazakum Allahu khairan.